Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
J'ai compris qu'en fait, si les gens ne comprennent pas que l'environnement les touche directement, que c'est un problème social aussi bien qu'environnemental, et qu'une responsabilité individuelle va de même au niveau d'une responsabilité collective, alors on n'arrivera jamais.
J'ai rencontré Sandrine à la COP28 de Dubaï, et c'est un peu grâce à vous. Laetitia est une fidèle auditrice du podcast, et elle m'a aperçue au loin en hésitant à venir me parler. Elle l'a fait, et elle a eu raison. Cet épisode ne serait pas si elle n'avait pas osé. J'adore tes podcasts, merci. Voilà ce qu'elle m'a dit. Les merci écrits par message, ça fait du bien, mais les merci parlés, en vrai, ça change tout. Laetitia vient de Belgique, et j'ai été aussi étonnée que touchée qu'elle vienne me voir. Elle était avec Sandrine Dixon de Clèves, et elle m'a dit « Tu connais cette femme ? Elle a cofondé le Club de Rome. » Waouh, la claque, rien que ça. J'avais en face de moi une femme si humble que jamais, d'elle-même, elle n'aurait prétendu avoir changé le cours de l'histoire. Et pourtant, elle était là. On a échangé quelques mots et le lendemain, je tendais mon micro à Sandrine Dixon de Clèves. Alors la qualité du son n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué. Mes micros jaunes sont restés en France. Mais il fallait retenir les mots de Sandrine d'une manière ou d'une autre pour Nouvel Oeil. Alors on a tenté de trouver un coin « calme » entre gros guillemets, avec nos deux micro-cravates, et on a lancé la conversation en pleine immersion à la COP28 de Dubaï. Comment avoir un impact en tant que femme? Que retenir de cette COP28? Quelles sont les limites de la croissance? Avec Sandrine, dans cet épisode, on parle de COP28, de femmes au pouvoir et de transformation intérieure. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour agir.
C'est pas Disneyland, hein.
On devient impatient, en fait.
On est impatient, on croit qu'en fait tout doit être tout de suite.
Dans l'immédiat.
Et la vie n'est pas comme ça.
Non.
La vie ne devrait pas être comme ça, en fait.
Elle est comme ça,
elle
mais,
comme ça, mais
pas.
Elle ne devrait pas l'être.
C'est sûr.
Bon, on y va.
Bonjour Sandrine Dixon de Clèves.
Bonjour.
Très heureuse de t'interviewer. Tu es docteur en sciences de l'environnement et coprésidente du Club de Rome, qui mêle, qui mêle scientifiques, économistes, industriels et anciens politiques de 52 pays. Mmh. Et on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la COP28 à Dubaï. C'est assez improbable. On s'est rencontrés hier grâce à une abonnée du podcast qui est ici parmi nous et qui est venue se présenter. Donc, je suis très heureuse d'avoir ce temps d'échange qui n'était pas prévu, qu'on a attrapé au vol.
Et
merci
moi aussi,
d'être là.
Je suis super contente d'être là avec toi.
Et merci pour cet engagement que tu portes au monde. Je vais te poser une question d'introduction que je pose à tous mes invités du podcast. Mmh. Une question très large. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, mes parents ont émigré aux États-Unis quand j'avais 5 ans. Et donc, déjà, l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture m'ont appris d'être assez flexible et adaptable à différentes situations. Aussi du fait que culturellement, il y a des grosses différences. Ça, c'était pendant les années 70. Mais ça m'a appris aussi qu'il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis. D'ailleurs, je me suis fait maltraiter par des femmes afro-américaines qui trouvaient que je m'habillais différemment, que je parlais différemment et qui n'étaient pas du tout contentes et qui plutôt étaient aussi frustrées de leur mode de vie.
Et donc, cette différence justement qu'on te faisait ressentir, est-ce que tu en as fait une force de quelque chose à garder ou est-ce que tu as essayé de l'éteindre en fait pour être comme tout le monde ?
C'est assez intéressant parce que déjà à l'âge de 7 ans, justement quand ces filles m'ont demandé de manger de l'herbe devant elles, et j'étais aussi devant mon prof de gym, un homme blanc, qui lui n'a rien fait. Et dans ma petite tête de fille de 7 ans, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Lui, il est en train de regarder pendant que moi, je me fais descendre. Et puis, peut-être, ces filles ne sont pas très heureuses dans leur vie. Je ne comprends pas comment c'est venu déjà à cet âge-là. Et je crois que j'ai incarné, en fait, déjà cette réflexion pendant toute ma carrière, toute ma vie, le fait que d'abord, il y a des injustices, qu'il y a cette différence entre les différentes couleurs, les différentes cultures, et que les choses sont beaucoup plus profondes et complexes qu'on le croit. Et ça m'a donné une puissance interne extraordinaire parce que j'étais fort liée, je dirais, laissée à moi-même. Mes parents travaillaient tout le temps. Quand on était jeune en Californie pendant cette période-là, on pouvait aller à l'école tout seul, se promener tout seul. Il n'y avait pas du tout de risque. J'allais beaucoup à la bibliothèque. Je faisais plein de choses et j'avais toujours cette curiosité de découvrir le monde, en fait.
Et donc, cette responsabilisation que tu as eue très jeune, est-ce que c'est une arme dans la vie, finalement ? Ta force de vie, est-ce que tu la tiens de ça ?
Absolument, absolument. Et je dirais aussi cette ouverture vers le monde pour essayer de comprendre. Parce que là aussi, en Californie, pendant cette période-là, on a eu une sécheresse. Donc, on savait très bien qu'on devait faire attention à l'utilisation de l'eau. Il faut se dire que ça, c'était dans les débuts 80, fin années 70. Qu'en plus de cela, on avait donc un problème déjà au Moyen-Orient au niveau accès au pétrole. Donc, c'était une crise énergétique. Et donc là, on n'allait pas tout le temps chercher, par exemple, du fuel à la pompe parce qu'on ne pouvait pas. Mm-hmm. Et donc, j'étais vraiment dans une période d'apprentissage à plein niveau, que j'allais aussi au magasin et que là, on nous disait qu'il y avait certains émigrants venant du Mexique qui travaillaient au niveau des productions de tomates qui étaient maltraités. Toute cette information venait vers moi continuellement.
Et de cette injustice, finalement, tu en as fait ton combat et toute ta vie. Et tu parles aussi d'ailleurs beaucoup d'injustice sociale liée avec la crise environnementale. À quel moment ton engagement a pris tellement d'ampleur que tu as décidé d'en dédier ta vie ?
En fait, j'ai commencé mon engagement à l'université contre l'apartheid quand les universités américaines ont commencé à désinvestir, en fait, de l'Afrique du Sud. Et là, je travaillais avec Bishop Tutu et d'autres. Et là, j'avais que 20 ans. Mais là aussi, c'était intéressant parce que pas mal des leaders venant de pays africains disaient « C'est pas ton combat. Qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, je me suis dit « Mais attends, si c'est pas mon combat, alors je suis là pourquoi ?» Ça doit être tous notre combat. Donc, j'ai commencé à déjà être activiste à ce moment-là. Puis, je suis partie à Bruxelles parce que j'ai eu un stage à la Commission européenne. Et là, je me suis dit, oh, ça peut être intéressant d'être fonctionnaire. J'ai décidé déjà à ce moment-là qu'en fait, non, être fonctionnaire n'était pas mon truc. Que moi, mon combat, c'était vraiment de faire un changement direct. Et donc, j'ai commencé mon parcours à vraiment travailler avec les gouvernements, les entreprises, en tant qu'ingénieur environnemental. Et à commencer à travailler directement dans des entreprises et aussi à écrire de la législation sur l'environnement et toute notre problématique environnementale déjà dans les années 80.
Et tu arrivais à ressentir déjà l'impact que tu pouvais avoir ?
Oui, c'était assez extraordinaire parce que j'étais souvent la seule femme. Je travaillais par exemple sur le site nucléaire de Tihange. Et là, je faisais parmi une équipe de 5 personnes. J'étais la seule femme qui devait travailler avec tous les employés de l'équipe pour essayer de leur convaincre qu'il fallait mettre en fait un système de gestion environnementale en place. Mmh. Et c'était très difficile. Et même là, j'ai compris qu'en fait, si les gens ne comprennent pas que l'environnement les touche directement, que c'est un problème social aussi bien qu'environnemental, et qu'une responsabilité individuelle va de même au niveau d'une responsabilité collective, alors on n'arrivera jamais.
Et de ça, donc, tu as co-créé le Club de Rome, tu co-présides le Club de Rome, qui a été commissionné il y a 50 ans déjà, pour publier le rapport Meadows. Donc, ce sont les fameuses limites de la croissance qui ont été écrites et publiées en 1972, précisément. Et c'est la première fois qu'ont été établis les effets délétères sur le plan humain et écologique d'une croissance exponentielle dans un monde aux limites planétaires que l'on connaît aujourd'hui. 50 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ?
Donc c'est assez intéressant parce que je suis devenue co-présidente du Club de Rome en 2018, mais j'ai un long parcours depuis. J'ai travaillé comme consultante pour pratiquement toutes les plus grosses boîtes pétrolières dans le monde entier, aussi bien que l'OPEP, pour essayer de mettre des carburants propres sur le marché. J'ai aussi travaillé pour le prince de Galles, quand il était prince, maintenant le roi Charles, et aussi les Nations Unies. Et donc, ce qui était intéressant quand je suis arrivée au Club de Rome, c'était un peu la fin d'un parcours où j'avais vraiment travaillé avec tellement de différents acteurs pour essayer de trouver les ponts nécessaires pour avoir un échange vrai, basé sur les faits, basé sur la science, basé sur les évidences, sur les données, et de traduire cela en action. Mais quand je suis arrivée au Club de Rome, c'était toujours une organisation qui avait publié des milliers de publications sur toutes les problématiques humaines et aussi environnementales, mais qui était un peu restée une organisation intellectuelle, fort intello, fort un peu dans leur tour d'ivoire. Et quand je suis devenue coprésidente avec ma coprésidente Mampela Rampele, qui donc a 20 ans plus que moi, qui est africaine, toutes les deux, on a décidé d'abord, il faut absolument qu'on change la donne du Club de Rome. On a des publications extraordinaires, mais est-ce qu'elle est lue ? Ces publications sont lues, en fait, par la plupart des citoyens ? On le savait très bien, non. Par les gouvernements ? Non.
Est-ce qu'ils ont compris ? Parce que ça paraît inaccessible comme document, en fait.
Souvent
c'est
inaccessible.
Difficile à démocratiser.
Absolument. Même si le rapport Meadows était quand même assez facile. Ouais. Et on retrouve le rapport Meadows dans pas mal, en fait, des instructions et des différentes écoles dans le monde entier. Mais il y avait un problème de traduction aussi au niveau de tous les jours, de l'impact direct sur l'individu.
Mais justement, en parlant de démocratiser ce sujet-là, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu quelles sont dans les grandes lignes les limites de la croissance ?
Absolument. Donc déjà, il faut se rappeler que les ordis, donc les gros ordinateurs où on pouvait en fait mettre tous ces données dedans, ils étaient énormes. Ça prenait toute une salle. Et quand on pense que les scénarios qui ont été créés par en fait les données interactives de ce qu'on appelle un système dynamique, donc on regarde le social avec l'environnemental, avec l'économique, avec le financier, qu'on pouvait déjà comprendre les scénarios qui ont mené en fait à la polycrise qu'on a aujourd'hui.
Oui.
C'était il y a 50 ans. Donc on voit déjà des prédictions, ou en tout cas des pré-prédictions, parce que ce ne sont pas des prédictions directes, mais en tout cas des possibilités de futures alternatives qui ont été prédites, qui disaient qu'en 2020, on allait dépasser les barrières au niveau et les frontières au niveau planétaire. Mmh. Là, on sait déjà qu'on en a passé 6 des 9. Le changement climatique est dedans. La semaine dernière, on était à 2 degrés pour la première fois, le vendredi. On sait très bien qu'au niveau global, on peut que dépasser jusqu'à 1,5 si on veut rester plus ou moins dans une vie normale. Qu'en plus de cela, on allait avoir des impacts sociaux énormes dans le monde entier. Et donc, toutes ces possibilités d'impact qui ont été prédites en 1972 sont là, maintenant, devant nos yeux, avec une ponctualité, une précision absolument extraordinaire.
Et déconcertante aussi.
Et très déconcertante.
Et on sait qu'il faut encore réduire de 60% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035 si on veut espérer rester en dessous des 1,5 degrés. Donc, on savait ça déjà il y a 50 ans, et pour autant, aujourd'hui, il y a encore très peu de choses qui ont été faites.
Non, et on sait déjà que dans les années 80, par exemple, Reagan et d'autres leaders au niveau gouvernemental ont dit très clairement, mais bien sûr qu'il n'y a pas de limite à la croissance, nous sommes en plein dans une croissance qui vont aider tous les pauvres. Ça va, on aura autant de ressources dont on a besoin. Et là, bien sûr, on trouve que c'est pas du tout correct. En plus, la pandémie nous a montré qu'on est totalement dépendant au niveau chaîne de valeur sur des matériaux qui sont en train d'être de plus en plus difficiles d'accès, que nos ressources naturelles sont en train, et aussi nos espèces au niveau extinction. Donc, on voit de plus en plus de problèmes. Et c'est pour ça qu'on a décidé, en fait, il y a 2 ans, ou juste avant la pandémie, d'écrire le nouveau rapport. Quand on était en instance de fêter, en fait, et on peut même pas fêter le fait qu'il y a personne qui a écouté notre rapport. Donc, je dis commémorer, pas fêter. Quand on a décidé de faire la commémoration, en fait, de ce rapport, j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose de différent. Qu'on continue à utiliser notre modèle de système dynamique, donc, qui est, en fait, ce qu'on appelle Earth 4, donc la Terre 4, qui est ce modèle-là, la modélisation avec toutes ces interactions.
Et qu'on y ajoute le bien-être.
Qu'on y ajoute en particulier les tensions sociales qu'on voit maintenant effectivement devant nous, en particulier dans les pays de l'Ouest, où on a de plus en plus d'inégalités, même pas seulement entre l'Ouest et le Sud, mais même dans nos pays. Moi, je viens de San Francisco, et quand on regarde ce qui se passe maintenant à San Francisco, on a le plus gros taux d'inégalité. On a le plus gros taux de sans-abri qu'on ait jamais eu, de suicide, de maladie mentale et d'addiction à la drogue. Donc, on se retrouve dans un état et dans une ville la plus riche du monde qui n'a eu aucune de distribution de ses richesses pour la plupart des citoyens. C'est catastrophique. Donc, pour en revenir à ce rapport, on voulait absolument regarder la réalité en face et essayer de trouver justement des futures alternatives, des scénarios où on pourrait démontrer des solutions efficaces à prendre au niveau des gouvernements en particulier, parce qu'on ne se penche pas trop sur l'individu, parce que nous, on trouve vraiment que c'est les gouvernements et les acteurs qui, en fait, polluent le plus, qui, franchement, doivent assumer la responsabilité. C'est trop facile de dire que c'est tous les citoyens qui doivent, en fait, tout faire et que nous, on va suivre par après.
Et donc, c'est dans ce sens qu'en 2022, qu'il y a le nouveau rapport du Club de Rome qui a été publié. Et ce rapport, il alerte sur les montées des inégalités et surtout, il préconise donc de nouveaux indicateurs pour nos sociétés avec davantage d'accent posé sur le bien-être. Bien-être et écologie, on ne fait pas systématiquement le lien encore aujourd'hui. En quoi ces deux sujets, ils doivent pourtant être pensés simultanément?
Je crois que le problème, c'est que le bien-être est devenu un peu un signe d'aller à un spa ou se faire un massage, ou plutôt que du fait que notre économie ne sert plus en fait l'être humain du tout, que c'est une économie de finance qui a été purement maintenant construite pour les investisseurs et pour le profit. Et donc moi, je parle souvent des 3 P, donc le profit, bien sûr, la puissance et la patriarchie, ou ce que je dis, pardon, le pénis. Parce que je suis convaincue que si on avait, en fait, des gouvernements qui seraient sous le leadership de femmes, les femmes qui, en plus, donnent naissance à la génération future, qui savent très bien que tous leurs actes doivent être mis en place pour protéger cette génération future.
Oui, il y a un instinct de survie.
Il y a un instinct de survie, mais il y a aussi un instinct de collectivité, de travailler ensemble, de solidarité, qu'on ne voit pas dans la patriarchie du temps passé, ni de la patriarchie d'aujourd'hui, même s'il y a pas mal de féministes entre nos hommes, ça il faut le dire. Donc c'est très important, quand on parle en fait de cette économie de bien-être, qu'on sache que, en tout cas dans notre rapport, il y a 5 façons d'arriver à cette économie de bien-être. Ce sont ces changements de cap: d'abord éliminer la pauvreté, deuxièmement l'inégalité, mettre en place une vraie, je dirais, puissance féminine au niveau de notre pouvoir décidoire, mais aussi au niveau de l'éducation et l'accès à l'éducation dans les pays les plus pauvres. Et en plus, bien sûr, agir sur la transformation énergétique et la transformation de notre système alimentaire. Et juste avec ces 5-là, on sait très bien qu'on peut, de 2 à 4% de PIB global, payer pour ce changement. Par contre, le coût qu'on a maintenant, juste avant, avec le changement climatique, va augmenter de 5% de PIB annuellement. Donc, on voit très bien qu'en fait, les solutions sont moins chères que les coûts qu'on va avoir directement du changement climatique.
Comment on fait pour faire comprendre ça et pour faire transiter nos sociétés vers ces indicateurs-là plus rapidement possible ? Parce que là, dit comme ça, ça semble évident, tout le monde peut être convaincu, mais dans les faits, ça ne bouge pas.
Non, exactement. Ça ne bouge pas parce que malheureusement, la puissance de plupart, en fait, des grosses multinationales qui veulent continuer à faire les profits sur le dos de l'être humain, c'est dingue. Quand on regarde qu'on a plus ou moins 1,2 milliard de profits par jour faits par les pétroliers, sur le dos, en fait, des citoyens qui sont en train de vivre une pauvreté énergétique, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, c'est scandaleux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je viens de parler avec les maires ce matin. Je dois dire que j'étais assez surprise de voir leur réaction positive. Parce que eux, ils vivent avec cette pauvreté tous les jours. Je trouve que souvent, au niveau national, en fait, les gouvernements sont beaucoup moins proches de la population. Tandis que là, les maires ont compris tout de suite. Et ils ont dit en particulier, la statistique qui est la plus importante dans ce qu'on essaye de dire, c'est que notre possibilité de changement au niveau de rentrer dans ces barrières planétaires, donc même d'agir au niveau du climat, sont directement liées à l'éradication, en fait, de l'inégalité et de la pauvreté. On n'arrivera pas si on se met pas là-dessus d'abord. Ça veut dire qu'au niveau international, il faut changer le système financier. Donc là, on est en train de parler avec la FMI, la Banque mondiale, au niveau de l'annulation de la dette. C'est pour ça d'ailleurs que Macron a eu sa réunion en juin dernier à Paris. Je dois dire que j'étais fort déçue par les recommandations venant directement de Macron et d'autres, parce qu'ils n'ont pas été assez loin et parce qu'ils n'ont pas vraiment écouté les vrais besoins des pays les plus pauvres.
Et dès qu'on agit à l'échelle mondiale, tout prend énormément de temps. Est-ce que tu restes malgré tout optimiste pour demain, même si tout va beaucoup moins vite qu'il le faudrait face à l'urgence telle qu'on connaît aujourd'hui ?
C'est pas toujours facile de rester optimiste, tu vas dire. Même quand on est ici à la COP, tu le sais bien, on a eu le premier jour avec beaucoup de fanfares autour, en fait, de dommages et pertes et ce nouveau fonds, en sachant très bien que c'est minuscule en comparaison des profits des plus riches dans le monde, des plus riches aussi au niveau des pétroliers. C'est très difficile de rester optimiste quand on voit ce qui se passe dans le monde maintenant avec les guerres, les attaques que vous venez d'avoir à Paris. Mais ce qui me rend optimiste, c'est les citoyens, c'est au niveau local, c'est toutes les organisations qui sont ici, qui sont vraiment en plein milieu du combat. C'est nos membres qui travaillent en Inde avec les plus pauvres. Et on voit que vraiment, au niveau communautaire, on est solidaires, qu'on a plein de solutions et qu'on met en place des solutions avec très peu de fonds. Qu'on arrive même, nous, avec notre livre, à en un an être traduit en 10 langues, même en chinois et en japonais, avec un narratif qui parle à tout le monde et que je suis en train de faire des discours et d'avoir des podcasts comme celui-ci partout, tout le temps, parce que je crois qu'on a vraiment touché un nerf, que les gens ont compris qu'on est dans un malaise énorme et ça explose. Et donc, dans cette explosion, il y a une opportunité, il y a une possibilité de transformation.
Mais il va falloir accepter de faire le deuil du monde qu'on connaît aujourd'hui aussi.
Absolument. Et accepter que le monde qu'on va avoir est peut-être un monde meilleur.
Oui.
Parce qu'on sait très bien que le matériel ne nous aide pas pour l'instant, qu'on est de plus en plus malade, qu'on a de plus en plus de suicides, de maladies mentales dans le monde entier.
Que le taux de burn-out explose aussi.
Que le taux de burn-out, et en particulier l'anxiété chez les jeunes, est dramatique. Donc, ce que moi, j'essaye de dire, c'est qu'il y a une possibilité de créer quelque chose d'autre. Et quand je vois les discussions qu'on a même avec l'Ukraine, qui nous ont demandé de travailler avec eux pour reconstruire l'Ukraine d'une façon de bien-être, avec une économie qui prend en compte des indicateurs qui vont au-delà que de la productivité, c'est assez extraordinaire.
Ça, ça donne de l'espoir.
Voilà.
Et ce fameux nouveau rapport, donc, qui a été publié par le Club de Rome en 2022, il propose justement des mondes alternatifs en envisageant deux scénarios. Il y a le trop peu, trop tard et le pas de géant. Quels sont ces deux scénarios?
Mais donc, le trop peu, trop tard, c'est maintenant.
Ouais.
C'est ce qu'on a dit en anglais, business as usual. Donc, on continue, on laisse les plus riches continuer à avoir leur richesse. Nous, on travaille, par exemple, avec des milliardaires dans le monde entier qui ont dit stop. Nous, on est prêts à payer ce qu'il faut au niveau de nos impôts, mais aussi d'augmenter nos impôts. Et ça, c'est extraordinaire. On travaille avec des pays qui, eux, ont commencé à aller vers des économies de bien-être. Donc, on sait très bien que le business as usual, le trop peu, trop tard, c'est maintenant. Et là, on va droit dans le mur. Donc, on arrive à 4 degrés et on arrive vite à 4 degrés. Encore, il faut pas oublier qu'on était à 2 degrés vendredi dernier. Hein, donc, ça va très vite.
Et la température de cette COP, c'est un beau rappel aussi parce qu'on est sous des 30 degrés, tout le monde a très 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 chaud et on voit bien que c'est une température anormale pour un mois de décembre, même si on est à Dubaï en fait.
Absolument, il faut pas oublier non plus que bon, moi je suis de la Belgique, ouais. Qu'en Belgique, on a eu le mois le plus chaud, le mois d'octobre, et le mois le plus pluvieux, le mois de novembre, en 2 mois.
Donc c'est que des extrêmes.
C'est que des extrêmes et on en aura de plus en plus. Et moi je dis souvent, donc dans ce justement... Ce too little too late, ce trop peu trop tard, dans ce scénario-là, on devient tous des réfugiés. C'est plus que des réfugiés venant du sud vers le nord, dans les pays les plus pauvres vers chez nous. C'est les Italiens, les Espagnols, les Grecs qui vont venir chez nous aussi. C'est nous qui vont devoir peut-être partir parce qu'on aura de plus en plus d'inondations. Donc il faut pas oublier que, en fait, comme on a vu avec la pandémie, On est lié au maillon le plus faible, tous.
C'est qu'on est tous interdépendants, d'où l'intérêt de traiter cette question simultanément à l'échelle mondiale et collectivement, et de mettre aussi sur le plan de la table les inégalités sociales.
Absolument. C'est pour ça que le pas géant est quelque chose d'assez extraordinaire. Que comme je vous ai dit, en fait, on peut, avec 2 de 4% du PIB global, arriver, en fait, à changer la donne. À vraiment mettre les solutions en place au niveau énergie, arriver à tripler les renouvelables et aussi tripler, doubler les investissements au niveau efficacité énergétique, diminuer notre consommation, mais aussi mettre en place les systèmes de gouvernance en général qui sont vraiment à stimuler en fait les investissements pour aller vers une énergie beaucoup plus propre, que ce soit au niveau aussi le système régénératrice. Au niveau de l'alimentation, on a de plus en plus de fermiers qui savent très bien qu'ils doivent investir dans une agriculture qui bénéficie non seulement l'être humain, mais aussi le sol, parce que les sols sont tout à fait dépourvus, en fait, de leurs minéraux. Donc, on voit que c'est possible. On a la plupart des solutions. C'est ça qui est extraordinaire.
On a les solutions, on connaît les limites de la croissance, on sait ce qu'il ne faut plus faire. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi une incroyable opportunité de créer un nouveau monde, le monde de demain, qui sera peut-être d'autant plus merveilleux que celui qu'on connaît aujourd'hui. Comment, toi, est-ce que tu vois le monde de demain?
Moi, le monde de demain est vraiment un monde plus solidaire. C'est clair que il y aura... certaines entreprises qui vont gagner, tous ceux qui investissent dans des solutions propres, et il y aura des perdants. Et les perdants sont ceux qui ont, pour finir, décidé qu'ils voulaient que du profit sur le dos des autres et pas nécessairement une distribution des biens. Moi, c'est un monde qui est plus basé sur les égalités, pas les inégalités. Et c'est pas non plus juste, disons, naïf ni fictif. Parce qu'on sait très bien que les gouvernements scandinaves, qui ont toujours été beaucoup plus égaux, ont toujours eu beaucoup moins de tensions sociales, ont toujours été plus progressistes au niveau de l'investissement, au niveau environnemental et aussi contre le changement climatique. Et donc, on sait qu'on peut le faire. Ce qui m'effraie, par contre, c'est que là, maintenant, on est un peu dans une période de clivage, où on pourrait aller vers ce monde, où on pourrait, et on le voit déjà, continuer à partir en arrière à cause de la peur de secouer les choses parce qu'on a des guerres, à cause du fait qu'il y a un pouvoir tellement ancré venant des plus grosses productions, des plus gros producteurs en fait de pétrole, qui eux retiennent en fait ce pouvoir et ne veulent pas lâcher prise. Ça, c'est le plus gros problème. Et on le voit ici au niveau de ces discussions. Si on peut sortir de cette COP avec une conclusion et un objectif ambitieux sur en fait un déclin de production d'énergie fossile, alors là, on peut commencer le pas vers ce pas géant.
Et ça, les négociations sont enclenchées, on croise les doigts, mais pour le moment, ça avance en ce sens quand même. Deux dernières petites questions un peu plus légères, enfin très larges, mais qui s'éloignent un petit peu de l'écologie. La liberté, c'est quoi pour toi ?
Mais justement, moi je trouve que cette liberté revient de revenir vers un respect des autres. Et le respect des autres, c'est large, hein. Ça veut dire qu'on met en place en fait un système de gouvernance qui prend en compte tout le monde, pas que les plus riches. Qu'on revient vers une liberté qui est basée sur des citoyens qui peuvent être actifs dans une économie qui fonctionne pour eux, pas que pour les plus riches. Qu'on embrasse bien sûr une démocratie avec toutes les voix qui sont représentées. Je crois que le plus gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on est à deux doigts de perdre en fait cette liberté. Parce qu'on passe vers maintenant des régimes qui sont de plus en plus vers la droite et qui vont restreindre en fait notre possibilité d'expression et de liberté. Donc pour moi, cette liberté revient aux valeurs humaines et aux différents systèmes qui reflètent ces valeurs humaines pour qu'on puisse être digne d'être humain et digne de faire partie d'un écosystème d'espèces.
Et alors, en une phrase ou plusieurs, quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ?
Mais je sais que tu as un public plutôt jeune.
Plus tant.
Ah !
Au début, mon podcast était destiné principalement aux jeunes, mais je vois que plus ça avance, plus il y a des personnes entre 35, 45, 50 qui écoutent. Et au final, ça touche toute génération confondue, parce que précisément, c'est des sujets qui concernent tout le monde.
Mais très bien. Donc moi, en fait, le conseil, c'est ne pas partir vers le désespoir. C'est d'essayer en revenir à l'intérieur de soi vers un respect de soi-même et de ce qu'on doit faire sur cette planète. Ça veut dire pas exploiter les autres. Parce que si nous, on exploite chacun d'entre nous, chaque autre personne, on exploite la planète. On exploite en fait l'espèce. Tout commence avec la façon dont on voit le monde. Pas avoir ce désespoir et aller vers des vraies valeurs humaines. Et chaque fois que j'ai un discours comme ça, il y a plein de gens qui viennent vers moi. Je n'oublierai jamais, en fait, quand je suis arrivée de la Californie dans les métros belges, je souriais à tout le monde, parce que les Californiens sourient à tout le monde. Parfois, c'est un peu superficiel, mais bon. Et les gens me regardaient et me demandaient « Mais qu'est-ce que tu veux de moi ?»
C'était pas normal de sourire.
C'était pas normal de sourire. Là, je viens aussi d'une retraite avec Christiane Figuère et ses d'autres au village des Pruniers.
Oh.
Et c'était extraordinaire.
À côté
avec
de Marmande.
Pas mal d'activistes aussi, en Dordogne. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on passait 4 heures dans un silence noble. Même plus, 10 heures dans un silence noble. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce silence noble, il y avait des gestes nobles. Et moi, j'ai commencé à appeler ces gestes nobles les gestes qu'on doit pratiquer tous les jours.
Oui.
Se regarder dans les yeux, se toucher, s'embrasser, se dire un mot juste. On doit revenir vers cela. On est face à une agressivité à tout niveau. Donc, pas perdre le désespoir, revenir vers nos côtés humains. Et je crois qu'avec ça, on va y arriver.
Et à la fois, ces messages-là, on le sait, à chaque fois qu'on les entend, on se dit, bah oui, c'est évident de revenir à plus d'humanité, à se regarder dans les yeux, etc. Mais pour autant, on le fait très peu. Et c'est souvent les choses qu'on sait le plus ou qu'on croit savoir, qu'au final, on ne dit pas assez. Donc, merci de le rappeler.
Et si je peux peut-être conclure avec aussi le fait qu'il faut vraiment pousser nos leaders. Et il faut voter pour les bonnes personnes. Le vote est tellement important. Et il faut aussi être sûr que nous, on fait partie de cette transformation. On peut le faire qu'au niveau, on peut le faire à plein niveau, qu'on soit dans un gouvernement, qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit un champion au niveau citoyen.
Ça a toujours un impact.
Et moi, je vois des champions partout dans le monde qui sont souvent seuls. Et donc là aussi, j'essaye de créer des moments de confiance entre différents leaders pour qu'ils puissent se parler et puis se retrouver pour trouver des écosystèmes de championnat qui vont vers cette transformation tellement nécessaire.
Merci beaucoup pour tous ces partages, c'était passionnant. Merci pour ce moment.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.